Question, êtes-vous accro à votre smartphone et pourriez-vous vous en passer pendant plusieurs jours? Si vous avez encore un doute sur la réponse, vous y verrez plus clair ce soir en regardant Envoyé spécial, c'est à 20h10 sur France 2. Le magazine consacre une soirée spéciale à notre dépendance numérique. Trois sujets au programme, une expérience de sevrage de smartphone à laquelle se sont livrés pendant 2 semaines un ado de 14 et sa maman de 42 ans, classique mais résultat surprenant, et aussi une enquête sur les drogués du numérique aux États-Unis, co-réalisée par Virginie Villard. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez le casque sur les oreilles, vous avez le masque. Pour quelle raison vous avez le masque dans ce studio alors que nous sommes à distance?
Parce que je préfère être prudente, parce que certainement quelqu'un que j'ai pu croiser a été testé positif.
Face à vous, un troisième personnage, non, pardon, il y aura un troisième reportage consacré au repenti des applis. Il est face à vous, il est co-réalisé ce reportage par Yvan Martinet. Bonjour.
Bonjour. Premier... Je vais bien.
Voilà, vous allez bien, vous n'avez pas de masque et moi non plus. Première question à tous les deux, est-ce que vous-même êtes atteint de nomophobie? Non, est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la nomophobie?
Bien sûr, évidemment.
Dites-le, Yvan.
Nomophobie?
Ouais. Avoir peur de ne pas être joignable. Il y a des gens qui paniquent quand ils sont dans une maison.
Ils ont pas son téléphone, ouais.
Ouais, ils ont pas la 2G, la 3G, la 4G, ils sont en panique. Est-ce que ça vous arrive ou pas?
Ça peut m'arriver, ouais. Si je suis honnête, je suis pas très bien quand je suis pas avec mon, quand j'ai pas mon téléphone, quoi.
Et vous?
Je crois qu'il y a une petite déformation professionnelle derrière, chacun son boulot, mais nous, en tout cas moi, mon boulot, ça a souvent été d'être joignable H24 quasi, et alors du coup, il en reste toujours des séquelles.
Les Français passent en moyenne 2 heures par jour sur leur smartphone, chiffre qui augmente un peu plus chaque année. Vous, c'est combien, vous le savez?
Je sais pas bien, c'est mais de l'ordre de... Alors, il y a... Covid ou hors Covid?
Vas-y, hors Covid, non, là, on en est sorti.
On doit titiller les 4 heures.
Et moi, j'ai découvert à l'occasion de cette émission, en travaillant dessus, en regardant dans tant d'écrans dans mon iPhone, que je passais plus de 4 heures par jour sur mon téléphone.
À ceci près que si on écoute Europe 1, typiquement, on sait pas si c'est vraiment du temps d'écran, mais par exemple, moi, le matin, j'écoute Europe 1 via l'iPhone, c'est du temps. C'est considéré comme du temps d'écran. Donc, les données sont peut-être un peu biaisées.
Oui, parce qu'on peut écouter Europe 1 sans regarder l'écran.
Exact.
Virginie Villard, pour votre enquête, vous êtes allée à Austin, au Texas. Là-bas, il y a une clinique spécialisée dans l'addiction qui accueille depuis 2 ans des drogués du numérique. En quoi consiste la cure de désintox? Est-ce qu'on peut l'appeler ainsi?
Oui, c'est complètement une cure de désintoxication. En fait, cette cure, elle dure 2 mois. Mmh. Et les patients, déjà, commencent par... ils sont totalement privés de tout écran. Ils n'ont plus de téléphone portable, plus accès à aucun ordinateur. Et donc, il y a une période de sevrage, déjà, qui est très difficile. On l'a vu avec les personnages qu'on a suivis. Et ensuite, ils sont accompagnés souvent dans ce sevrage par des psychologues qui vont les aider, et ils ont des ateliers qui peuvent paraître anodins comme ça, mais en fait ils vont aller se balader pendant 3 heures dans la nature, apprendre à lever la tête, à regarder, à sentir. Ils font du tai chi, ils vont faire de la respiration. En fait, sur le coup, moi je me disais, bon, c'est vraiment c'est pas grand chose quoi.
Ouais,
et en fait c'est la vie, mais en fait ce sont souvent des gens qui ont été privés de cette vie.
Quel est leur profil à ces gens qui suivent cette cure de désintoxication? Ils y vont d'eux-mêmes ou est-ce que c'est leur entourage qui les y envoie?
Alors là, nous, dans le reportage, on suit un jeune garçon qui est très mal quand on le voit, parce qu'il est au tout début de sa cure. Il s'appelle Denton, il a 23 ans, et là c'est vraiment ses parents qui l'ont poussé à y aller, parce que c'est un garçon qui était totalement coupé de la vie sociale. Il n'avait pas d'amis, il ne parlait plus à ses parents, il ne travaillait plus, il avait arrêté ses études, il était vraiment mal.
En fait. Un no life, comme on les appelle. Ouais. Combien ça coûte?
Alors, 18 000 euros.
Waouh.
Voilà, cette cure de 2 mois.
Pardon de dire ça. On a l'impression que ça existe aussi parce qu'il y a des gogos qui sont prêts à mettre 18 000 euros.
Alors,
si vous me filez 18 000 euros, j'ouvre une clinique. Hein.
Non, mais c'est sûr que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et puis, bon, voilà, c'est souvent des parents riches qui peuvent payer ça à leurs enfants.
Hein. Ça fonctionne?
Alors, c'est difficile de savoir pour l'instant parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Mais nous, ce qu'on a constaté, en tout cas, c'est que Denton, ce garçon qu'on a suivi, quand il est sorti, bon, il a réussi à trouver un travail. C'est pour la première fois de sa vie, il travaille. Il a réussi à communiquer à nouveau avec ses parents. Et il ne touche plus de téléphone, de smartphone. Il a le droit d'avoir un téléphone, mais sans Internet.
Ouais. Le seul regret que j'ai, c'est que Denton ne pourra pas écouter la suite de Culture Média. Vous restez avec nous, on continue à parler de l'addiction au smartphone avec Yvan Martinet et Virginie Villard. À tout de suite. En compagnie de Virginie Villard et Yvan Martinet, vos enquêtes et pas seulement sont à découvrir ce soir dans Envoyé spécial. Le thème central global, c'est l'addiction au smartphone et aux tablettes et au numérique. Virginie, vous enquêtez également à Tulsa, c'est en Oklahoma. Vous avez obtenu l'autorisation de filmer dans un grand centre de recherche sur le cerveau. Ils mènent en ce moment une vaste étude à l'échelle l'échelle des États-Unis sur 11 000 enfants. L'étude va durer 10 ans entre leurs 9 et leurs 19 ans. C'est quoi cette étude précisément ?
Alors déjà, c'est une étude d'une ampleur inédite. Effectivement, ils vont suivre pendant 10 ans des enfants et en fait, les chercheurs veulent vraiment voir l'impact de l'utilisation du smartphone sur leur cerveau. Donc en fait, régulièrement, les enfants viennent passer des IRM du cerveau dans ces centres. On a eu la chance de tourner dans l'un d'entre eux. Ils font aussi des tests cognitifs, langage, mémoire. Et en fait, l'idée, c'est de voir comme ça sur le long terme, est-ce que finalement, ils sont partis d'une question, est-ce que l'utilisation du smartphone peut avoir un impact négatif sur le cerveau ? Est-ce que ça peut le faire rétrécir ? Et ce qui est assez surprenant, c'est que là, les chercheurs sont prudents parce qu'ils sont au tout début de l'étude, mais ils ont déjà fait une découverte qui est inquiétante.
Cette découverte, elle est dans votre sujet évidemment. L'étude est menée depuis 2007. En 3 ans, elle fournit 2016. Et en 3 ans, elle fournit les premiers résultats. Résultats alarmants.
Chez les enfants qui utilisent beaucoup les écrans, une zone du cerveau se modifie. C'est le cortex, la partie qui régit le langage, la mémoire ou encore la conscience.
Quand vous êtes jeune, votre cortex est épais comme ça. Quand vous vieillissez, votre cortex est comme ça. Plus vous vieillissez, plus votre cortex diminue. C'est tout à fait normal, c'est un processus naturel. Mais là, on a découvert dans cette étude que l'utilisation des écrans chez les enfants accélère cette réduction du cortex. Et en particulier l'utilisation des réseaux sociaux.
Est-ce qu'on peut déjà mesurer les effets des écrans sur cette génération qui sont quasiment nés avec un écran entre les mains ?
Alors, encore une fois, bon, les chercheurs veulent rester prudents. Ils nous ont bien dit, bon, voilà, là, ce qu'on constate aujourd'hui, on ne sait pas totalement l'interpréter. Mais ce qu'ils constatent effectivement, c'est que les enfants qui utilisent beaucoup des écrans ont un rétrécissement accéléré du cortex. Après, ils ne savent pas encore ce que ça veut dire.
Parce qu'on parle parfois d'une baisse de QI générale.
Oui, alors, si vous voulez, eux, ils ne sont pas forcément là-dedans. Ils mettent des données les unes à côté des autres. Ils se rendent compte que le cortex diminue et ils se rendent compte aussi que ces mêmes enfants ont des tests moins bons aux tests de langage, de mémoire et que ce sont souvent des enfants plus agressifs que ceux qui n'utilisent pas de portable.
Conséquence de tout cela, je me tourne vers vous Yvan Martinet, encore plus surprenant ce reportage. Vous êtes allé à la rencontre de ceux que vous appelez les repentis des applis. Il y a Tony Fadell, ingénieur concepteur chez Apple, à qui l'on doit 18 générations d'iPod et 3 modèles d'iPhone. Que vous a-t-il dit ? Qu'il regrette d'avoir eu ces idées ?
Alors plus que l'iPod, il a surtout l'iPod, c'est ce qui a servi à inventer derrière l'iPhone. Donc il a surtout inventé l'iPhone depuis le premier. On peut se dire que c'était loin, mais finalement ça a pas tant évolué que ça. Et puis c'est surtout dès le premier que ça a changé nos habitudes avec les applis. C'est un peu l'inventeur du verre. Il a inventé un verre, soit. Maintenant le verre, vous en faites ce que vous voulez. Si vous mettez de l'alcool dedans, il n'est pas responsable. Il en est un peu là. Il a inventé un outil. Et ce qu'il constate, c'est que ce que l'on fait de l'outil le dérange. Donc il n'est pas en train de renier son bébé, pas à ce point.
Mais quand même, il dit dans le sujet, pour lui, il dit il faut combattre le monstre.
Oui, parce qu'il se rend compte que, lui le premier, il le dit dans le sujet aussi, quand il est au restaurant, comme nous tous, il voit autour de lui ses familles qui, au lieu de se parler, au lieu de se regarder, sont toutes sur leur portable et évidemment ça le navre. C'est même l'occasion de scènes de ménage chez lui puisque sa femme l'engueule parce que les enfants sont trop scotchés au portable. Et il a inventé un truc et aujourd'hui, et c'est ce qu'on retrouve dans chacun des personnages de ce reportage, les repentis, il éprouve une certaine forme de culpabilité.
Autre personnage que vous avez rencontré, Guillaume Chalot, il est ingénieur, il a travaillé pour YouTube. Sa mission était de rendre la plateforme la plus addictive possible. On ne peut pas dire qu'il ait échoué. Il a témoigné facilement ?
Oui, parce que il est lanceur d'alerte maintenant. Ouais. Il a été lui-même, après avoir travaillé chez YouTube, programmateur, après avoir... Il n'a pas inventé l'algorithme, mais il l'a perfectionné, il l'a rendu encore plus...
Encore plus efficace ?
Exactement. Et... un jour, il s'est réveillé, il avait évidemment un très bon salaire, il roulait en Porsche, il vivait en Californie, il allait surfer, etc. Mais un jour, il s'est réveillé avec, allongé à côté de lui, la culpabilité. Il a dit stop. Et de ce jour, il a décidé de se lancer dans une croisade.
On va raconter ce qu'il fait maintenant. D'abord, je voudrais qu'on entende un exemple que vous donnez. C'est l'exemple de l'élection présidentielle de 2017. Il a stocké les vidéos les plus recommandées sur YouTube pendant la campagne électorale. Et le résultat est surprenant.
La deuxième vidéo la plus recommandée, le 30 avril 2017, c'était une vidéo de Dieudonné sur Macron ou Le Pen. Cette vidéo, elle a été recommandée par YouTube des millions de fois. probablement de l'ordre de 10 millions de fois. C'était la vidéo qu'il fallait promouvoir pour que YouTube ait plus de publicité.
Vous avez travaillé sur cet algorithme, vous avez participé à ce que, dans un temps fort démocratique en France, on ait ce genre de proposition.
Voilà, donc j'ai contribué à ce que l'algorithme propose des résultats toxiques juste pour que Google maximise ses revenus publicitaires.
Ça vous fait quoi de vous dire ça?
Je me sens responsable et coupable, et maintenant ma responsabilité, c'est de parler de ça pour qu'on change les choses.
Responsable et coupable, c'est quoi sa vie aujourd'hui à ce repenti YouTube?
Aujourd'hui, il vit d'une bourse de Mozilla. Il a finalement capté beaucoup l'attention après avoir quitté YouTube. Déjà, un, c'était courageux. Deux, il s'est vraiment lancé, c'est-à-dire en renonçant à ce salaire, etc. Donc, il est sur ses frais, il s'est lancé dans cette croisade. Et aujourd'hui, il est très identifié comme monsieur éthique. Au point, et c'est presque un paradoxe, que c'est un peu une sorte de greenwashing, au point que les Facebook, les Apple, etc., maintenant viennent sonner à sa porte et essayent de le débaucher pour l'avoir dans leurs effectifs comme garde-fou, comme monsieur éthique.
Pour l'avoir, pour le faire travailler, ou pour l'avoir en disant au monde entier, regardez, il est avec nous.
Ah ça, je suis pas dans, je suis ni chez Facebook ni chez Apple, mais voilà. En tout cas, il y a une prise de conscience.
Tout à l'heure, quand je vous demandais combien de temps vous passiez par jour sur votre smartphone, je vais arriver à le dire, vous m'avez fait cette question, avant ou après le Covid, qu'est-ce que le Covid a changé, et qu'est-ce que le Covid a changé pour eux, pour ces gens?
C'est marrant. Je leur ai envoyé un mail, comme on le fait parfois, pour leur dire, le sujet passe, ce sujet il a été tourné avant le Covid. On pouvait s'interroger sur notre rapport les uns les autres au portable. Quand je leur ai dit le reportage passe, ils me disent, trois d'entre eux me disent, c'est marrant, j'aurais peut-être pas fait les mêmes réponses si on avait été après le Covid.
Ah bon, pourquoi?
Parce que on a
qu'aurait-il dit de différent?
Il y avait un petit côté extrêmement superflu à passer autant de temps sur Instagram, par exemple, sur des applications futiles avant le Covid. Pendant le Covid, à travers les enfants qui étaient scolarisés via leur tablette, à travers les personnes âgées dans les EHPAD qui étaient peut-être un petit peu désenclavées, extraits de leur solitude grâce aux tablettes, on a peut-être mesuré aussi qu'il y a un caractère absolument nécessaire, indispensable à vivre avec. Et eux me disaient qu'ils avaient peut-être la dent moins dure contre la tablette après avoir vécu ce Covid.
Pour être totalement complet, il y a un troisième reportage à voir ce soir d'Envoyé spécial, Ma vie sans portable, expérience de sevrage de téléphone pendant 2 semaines à laquelle sont prêtés Rodolphe, il a 14 ans, et Séverine, 42 ans. C'est pas vous qui avez réalisé ce sujet, qui a été fait par Romain Boutilly, Élodie Delevoye, Adrien Bellet, vous l'avez vu le sujet?
Oui, bien sûr.
Et alors, ça vous a donné envie de vous sevrer?
Un petit peu, ouais. Je me suis dit que effectivement on était personne n'était épargné en fait.
Ouais.
On était tous un peu accros à notre téléphone, absorbés par ces notifications, et que en tout cas ça méritait d'y réfléchir.
On va entendre un son, c'est Rodolphe qui a 14 ans, il est bon élève, il est en 3e, il passe 6h30 par jour en moyenne devant des écrans, et mis à part son téléphone, il sait pas comment occuper son temps.
Hormis les vidéos et Instagram, Snapchat, etc., moi, je vois pas d'autres occupations, en fait.
Est-ce que tu lis, parfois?
Non, c'est clairement que si j'ai l'école qui demande. Mais non, l'idée n'arrive même pas dans ma tête de lire un livre.
Rodolphe s'endort en général devant ses écrans autour de 23h.
Réaction à ce qu'on vient d'entendre?
C'est effectivement, on peut tous le constater, du temps de lecture en moins, par exemple, mais on peut aussi regarder sur une tablette, je sais pas, au hasard, France 2, écouter aussi Europe 1, et ça dépend de ce qu'on en fait, ça dépend de ce qu'on en fait, cet outil.
Ou parfois écouter des livres audio. Réaction?
Moi, c'est difficile de savoir ce que je constate. En tout cas, j'ai rencontré des parents aux États-Unis pour préparer ce reportage, et j'ai vu beaucoup de parents désespérés, en fait, qui disaient que leurs enfants étaient en souffrance, qui étaient vraiment absorbés par ça et que ça ne leur faisait pas du bien, en fait.
Donc, c'est incroyable parce qu'on dirait, je terminerai sur ce mot-là, on dirait qu'on parle de drogue. On peut faire cette analogie ou pas?
Ah, en tout cas, les spécialistes aux États-Unis qu'on a rencontrés le font totalement, ce parallèle. Ouais.
Merci beaucoup, Yvan Martinet. Merci, Virginie Villard, d'avoir été avec nous en direct, et vos sujets et d'autres sont à voir ce soir d'Envoyé spécial.